qu'on aime, c'est Tobit. Le soir dans les bars, on en parle entre potes, c'est Tobit.
Kiki.
Doliprane, c'est Tobit. Saint-Étienne, c'est Tobit. Le son.
Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter, là, faut essayer.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, il est 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est le Canu Info du lundi. Je ne sais pas la date, donc c'est le Canu Info du lundi, le 14 février, voilà.
Et on commence avec les titres.
Et au national, on va parler de la répression à Paris ce week-end, d'une expulsion à Calais et de Macron, roi du nucléaire.
Et puis au local, on lira un communiqué des soulèvements de la terre. On aura un sujet sur la présence du GHB dans nos soirées. Aussi quelques mots sur un appel du collectif unitaire anti-autoritaire. Et puis l'annonce d'une publication, Nous faire justice.
Voilà, et avant de commencer par les traditionnelles brèves, on a une petite annonce à vous faire.
Oui, en info de dernière minute, il y a eu un incendie au squat Le Maria à Lyon 7e qui se situe à côté de la fourmilière rue Salomon-Rénac. Et donc il y a besoin de nourriture chaude et de vêtements chauds pour les gens qui sont en attente d'un bus qui devrait les amener dans un gymnase à Gerland pour un hébergement pour la nuit. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer avec de la nourriture chaude et des vêtements chauds.
Et on commence donc avec les brèves.
Voilà, une petite brève pour rappeler que Blanquer se fout du monde. Après le protocole sanitaire annoncé depuis Ibiza, Jean-Michel Blanquer refait des siennes et vient de nommer un certain Marc Sheringham à la tête du Conseil supérieur des programmes. Ce monsieur Sheringham est inspecteur général de philosophie, ancien conseiller de Raymond Barre, François Fillon et Xavier Darcos. Et apparemment, son cheval de bataille, c'est l'idéal civilisateur du christianisme. Et il plaide régulièrement pour sa réintroduction dans les manuels scolaires. Elle va être belle, l'école laïque.
On continue avec l'éducation nationale. Jeudi 3 février, des lycéens du lycée de Bréquigny à Rennes se sont mobilisés avec l'aide d'étudiants de Rennes 2 pour dénoncer la sélection toujours plus importante à l'entrée de l'université, comme en master. Alors merci à Parcoursup, à la réforme du bac, à l'autonomie des universités mise en place par une certaine Valérie Pécresse en 2007 et renforcée sous tous les gouvernements, y compris sous François Hollande. Et donc ces lycéens se sont mobilisés, et le meilleur moyen pour se mobiliser, c'est le blocage. Donc c'est ce qu'ils et elles ont fait, pardon, et une fois n'est pas coutume, les flics sont intervenus à deux reprises avec une violence ahurissante. Nombreuses charges, des élèves ont été matraqués au sol, du gaz lacrymogène en veux-tu en voilà. Plus tard dans la journée, un groupe de lycéens qui partaient en manif sauvage pour rejoindre la manifestation du centre-ville sont tombés dans un véritable guet-apens policier qui les ont tabassés. C'est incroyable depuis plusieurs années, hein. Dès que les lycéens qui se battent pour leur avenir lèvent le petit doigt, la réponse est toujours la même, une répression violente et totalement disproportionnée. Donc soutien aux lycéens et personnel mobilisé à Brequigny et ailleurs, puisque que ça se bouge pas mal dans les lycées de France en ce moment.
Et pour finir les brèves, alors que certains n'ont aucun problème avec l'idée d'encenser le christianisme à l'école, donc le voile, lui, continue encore et toujours d'être le symbole du mal absolu dans la tête des sénateurs. Le 19 janvier, le Sénat a en effet adopté un amendement à la loi sur la démocratisation du sport visant à interdire le port de signes religieux ostensibles lors des événements et compétitions organisées par les fédérations sportives. Difficile de ne pas comprendre que c'est le voile que l'on veut interdire, puisque dans les débats, c'est lui qui était mentionné. En deuxième lecture, mercredi dernier, les députés ont rejeté l'amendement, heureusement, au grand désespoir d'Éric Ciotti, qui a dénoncé une soumission à l'islamisme. Et pourtant, il n'a pas l'air de trop s'indigner quand les footballeurs français font le signe de croix avant de tirer au but. Soutien complet aux hijabeuses, ces footballeuses qui avaient prévu de jouer à proximité de l'Assemblée nationale pour protester contre l'amendement en question. La préfecture a interdit leur rassemblement et n'a levé l'arrêté qu'après l'heure du rendez-vous prévu.
Et aujourd'hui, pas d'international car on n'avait pas d'idée, mais par contre...
National.
Voilà le national. Et donc on commence avec un sujet sur la répression qui a eu lieu vendredi à Paris. Puisque la semaine dernière, donc mercredi 9 février pour être précis, s'est lancé l'autoproclamé convoi de la liberté au départ de Nice, puis d'un peu partout en France, reprenant l'initiative canadienne, principalement à Ottawa, et qui se répand dans plusieurs pays du monde. Ce convoi s'était donné rendez-vous à Paris ce vendredi 11 février, avant de se diriger ensuite vers Lille, puis Bruxelles. Alors on en pense qu'on veut de ce convoi de la liberté, mais ça a quand même le mérite d'exister et de bien faire flipper le pouvoir qui ne veut absolument pas se taper un gilet jaune bis à deux mois des présidentielles. Il y a eu environ 2000 véhicules d'un peu partout en France qui se sont dirigés vers Paris et au moins 4000 voire 5000 personnes. Le ministre de l'Intérieur et le préfet Didier Lallement ont mis en place un véritable siège de la ville de Paris et y ont fait régner une terreur policière qui fait véritablement froid dans le dos. Interdiction de manifester, menace mise en application de condamnation pour entrave à la circulation allant de 2 ans de prison ferme et 4 500 € d'amende, des tracteurs anti-barricades, des camions grues, des dépanneuses, des lanceurs à eau, des camions à bras hydrauliques et même, des blindés, le retour des blindés de la gendarmerie sur les Champs-Élysées, exactement comme pendant les Gilets jaunes, notamment en décembre 2019. De très nombreuses portes du périphérique étaient fermées ce vendredi et toutes les bacs de Paris ainsi que les braves M, les flics en moto, là, les voltigeurs, ont mis une pression de malade dès le vendredi matin aux alentours des Champs-Élysées sur toutes les rues adjacentes. Ce qui n'a pas empêché le convoi d'atteindre Paris et les Champs-Élysées. Et là, bah, clairement, c'est un carnage pendant près de 9 heures, de 13 heures à 22 heures pour être précis. Les flics, en nombre complètement délirant, ont passé la journée à terroriser toute personne présente sur l'avenue. Les vidéos postées sur Internet sont hallucinantes, hein, allez voir. Voitures défoncées par les flics eux-mêmes, à coups de matraque, les vitres défoncées, braquées pour certaines à l'arme à feu, emmenées à la fourrière. Les clients des bars, des enfants, des touristes, des personnes âgées ont été gazés, parfois tabassés gratos alors qu'ils n'étaient même pas membres du convoi de la liberté. Les blessés sont nombreux et nombreuses et parfois les blessures sont graves. Il y a au moins une jambe cassée, des tibias défoncés, des manifestants inanimés après une charge, hein, on le voit sur les vidéos également. Les passages à tabac avant interpellation ont été hyper nombreux, où on voit, il y a plein de vidéos qui montrent 5 à 6 flics sur un ou une manifestante au sol, ensemble, en train d'hurler de douleur. En gros, Darmanin et Lallement ont dit, alors toutou surarmé, qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient et qu'ils seraient couverts. Puisqu'encore une fois, ce sont des flics cagoulés et sans matricule. Le matricule, c'est le numéro qui permet normalement d'identifier un flic. Eh bien, là, ils étaient absolument pas identifiables. Et donc, ils ont œuvré toute la journée en mode milicien d'extrême droite, véritablement. Alors, on appelle encore la France une démocratie. Ça sent plutôt le fascisme, cette histoire.
Et au national toujours, on enchaîne avec l'expulsion de ce week-end à Calais.
Oui, donc au début du mois, le collectif Calais Logement pour tous et toutes s'est installé dans un bâtiment vide depuis plus d'un an pour loger, pour l'ouvrir à tous ceux et celles, là je les cite, tous ceux et celles qui doivent dormir dans le froid et sous la pluie dans le quartier. Plus précisément, c'est en réponse au fait qu'au moins 1500 personnes dites migrantes dorment dehors à Calais. Ils et elles dorment dehors en fait parce qu'ils se font expulser dès qu'un campement se forme et les condamnant donc à errer indéfiniment. Et ce même en plein hiver, à noter que cette année la préfecture n'a pas activé le plan grand froid à Calais et qu'aucun hébergement d'urgence n'a été ouvert cette année. C'est donc pour pallier à cette inaction et à cette hostilité qu'un immeuble a été ouvert comportant une quarantaine d'appartements. Preuve de cette hostilité, dès le lendemain de l'annonce publique de l'ouverture du bâtiment, soit le 7 février, des CRS ont encerclé le bâtiment et l'ont littéralement assiégé, empêchant le passage d'eau, de nourriture et de matériel. La sortie du bâtiment des militants, car a priori il n'y avait pas encore de migrants accueillis, était soumise à un contrôle d'identité. Et puis, vendredi dernier, c'est carrément le RAID qui est intervenu avec un hélicoptère sur le toit de l'immeuble pour évacuer le bâtiment. Pour évacuer un bâtiment vide d'ailleurs, puisque les militants avaient déjà quitté les lieux. Mais ils ont dénoncé dans leur communiqué une intervention digne d'une opération antiterroriste. C'est en effet un gros moyen matériel et donc financier qui a été utilisé pour s'assurer que des gens continuent à dormir dehors. Donc on signale quand même qu'une maison proche de l'immeuble et dont l'occupation a été lancée simultanément n'a pas été expulsée, elle. Mais malheureusement, elle n'aura pas la capacité de logement de l'immeuble d'à côté. Et avant de finir ce court sujet, on vous propose d'être au rendez-vous la semaine prochaine, lundi à 19h, car nous aurons des invités qui viendront nous parler de cette expulsion et de la situation à Calais plus en détail.
Et on continue avec une petite pause musicale. C'est Nadia Rose et le morceau s'appelle Scout.
Là.
Some punchlines that'll go over your head. Turn back, I'm a caution ahead. I'm your worst nightmare, stood over your bed. So them girl try corny, but I smell defeat like a hole in your crab. Wow, she's sick and she's bad. She sings and she raps, she shit and she's whack. They talk all that chat, but when they see me, don't speak none of that. Cause nobody bad like me. I'm fucking higher than a block of flats in Battersea. Whoa. And I'm with my team.
Squally,
Squally, where you at, my J?
I'm rolling 10 gal up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gal up in that squad. That's what? That squad.
I'm rolling 10 gal up in that squad. Fucking with my squad?
I think not. Me and my bitches, we roll deep. And we always got green, so we pretty much peas in a pod. I was at the scene, had to flee from the cops. I go inside with no keys for the locks. Excuse me, madam, how did you get on the premises? Well, I came to kill off my nemesis, so I used my juju when I came up in the crevices. Them bitches say they're bad, but I'm from where the fucking devil is. So if they get me mad, we're in the yard, disturbing residents. And we leave out the yard, up in the car, disposed to evidence. Cause nobody bad like us.
Nobody bad like us.
But really, we don't want no fuck. Someone roll them blunt, so we can turn shit up. Squally, let me see you brush your guns. I'm rolling 10 gal up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gal up in that squad.
I'm rolling 10 gal up in that squaddy. Came true with the clan, came true with the posse. I came with Mary Jane's, I'm came in it with Molly. Nuff gal in it, that's the way you roll, squaddy. Nuff gal in it, that's the way you roll out. If the line's good, you have to get your phone out. Bare skin teeth when we pose for the photos. Some gal are braided, some gal are in cornrows. But still one dread if we have to. The heart is still like a statue. Been on my grind like my back tooth, yeah. Take out the time, but I fuck zoot.
What else?
Step on the gas, take the back room. Why? Cause if my bitches need me there, well, I'm coming.
I'm coming.
And if I ain't got the witch, I'm running. I do it for a minute, nothing. Squally, let me see you brush your son.
I'm rolling 10 gal up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gal up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gal up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gal up in that squad. That's what? That squad.
Up in that squad, that's a wall, that's squaddy, that's the clan.
êtes toujours sur Radio Canu, c'est le Canu Info du 14 février et vous venez d'écouter Nadia Rose Squad, Nadia Rose qui est une rappeuse britannique féministe. Et on enchaîne au national avec un sujet sur Macron, le king of the nucléaire.
Oui, carrément. Puisque jeudi dernier, il a annoncé son programme nucléaire français et ainsi le projet de construire 14 centrales nucléaires d'ici 2050, dont 6 rapidement, et de prolonger la durée de vie de certaines centrales existantes de 50 ans. Donc bref, Macron voit les choses en grand pour le nucléaire dans un pays qui possède déjà 58 réacteurs. À cette occasion, il faut rappeler quelques faits et événements sur le nucléaire et je vais vous en citer quelques-uns tirés de ceux rassemblés dans un article de Nantes Révolté. Nantes Révolté étant un bon site d'information que je vous recommande malgré le fait que Darmanin veuille le dissoudre. Mais donc le nucléaire. D'abord, Macron veut rallonger la durée de vie de 50 ans des centrales qui ont déjà bien vécu. Et c'est immense quand on sait que leur durée de vie prévue initialement était de 40 ans pour des raisons de sécurité évidemment. On parle là donc de centrales qui vont tourner pendant au moins 90 ans. Ça donne quand même vaguement l'impression que seul un accident permettra d'y mettre fin. Et en parlant d'accidents ou d'incidents, comme ils sont appelés, quelques exemples récents. Le 6 février, départ de feu dans une centrale en Ardèche. Le 21 décembre 2021, EDF reconnaissait déjà avoir pollué les sols et les eaux sous la centrale du Tricastin dans la Drôme. Donc c'est 900 litres provenant de la zone nucléaire qui ont débordé lors d'un transfert fin novembre et se sont déversés dans le réseau de collecte d'eau pluviale. Dans la nuit du 20 au 21 décembre 2021, un réacteur de la centrale nucléaire de Cattenom dans le Grand Est s'est arrêté soudainement. Un problème électrique a provoqué l'arrêt de la turbine du réacteur. Dans la soirée du 16 décembre 2021, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Gravelines dans les Hauts-de-France, s'est arrêté brutalement. On s'arrête là, mais il y a déjà de quoi se rappeler que le risque zéro n'existe pas du tout, et surtout en matière de nucléaire. Et en plus, c'est un gouffre financier. La sécurité en matière de nucléaire, ça coûte cher, et on ne peut pas tellement faire confiance à une industrie motivée par le profit pour dépenser les sommes nécessaires. Ce que Macron veut construire, c'est des EPR, ce sont les réacteurs pressurisés européens. Un EPR, il y en a déjà plus ou moins un en France, à Flamanville, lancé dans les années 2000 et il a déjà plus de 10 ans de retard et son coût initial a déjà été multiplié par 4. Il atteint désormais près de 13 milliards d'euros. Pour quelle raison ? Parce que les dépenses dans le projet initial ont été vues à la baisse. En 2008, des fissures apparaissaient dans le béton de la structure, entraînant la suspension des travaux. En 2012, une fuite radioactive est survenue sur le circuit primaire du réacteur numéro 1. En 2017, une détonation et un départ de feu avaient lieu dans une salle des machines. Donc bravo Macron pour l'hypocrisie et non, le nucléaire n'est ni sûr ni écologique.
Et on enchaîne tout de suite avec la rubrique.
Allez.
Local.
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 Et on va commencer par parler des soulèvements de la Terre.
Oui, les soulèvements de la Terre, on vous en a déjà parlé, c'est un mouvement qui a été lancé il y a quelques mois, qui regroupe différentes organisations et assos écolos plus ou moins radicales ou de défense de la paysannerie comme la Confédération Paysanne, Extinction Rébellion, Alternativa et d'autres. Et donc ils nous ont demandé si on pouvait lire leur communiqué et donner les prochains rendez-vous. Ce que je vais faire donc maintenant. Donc leur dernier communiqué, le voici. À la mi-janvier, différents les soulèvements de la Terre, divers collectifs écologistes et paysans de la région lyonnaise ou encore les faucheurs volontaires annonçaient une campagne nationale d'action décentralisée contre Bayer Monsanto, monstre mondial de l'intoxication par les pesticides, de la privatisation du vivant et de l'agritech. Ces collectifs ont annoncé une date de mobilisation massive pour assiéger Bayer Monsanto à Lyon le 5 mars. Dès le 19 janvier, XR Lyon, donc c'est Extinction Rébellion, a ouvert le bal en allant graffer et en coller le siège national de Bayer Monsanto à Lyon. Ils leur ont ainsi fait part d'un ultimatum à quitter la ville avant le 5 mars. Dans la foulée, des élus LR lyonnais ont pris la défense de Monsanto et demandé la dissolution du groupe antifasciste Lagal suite à leur relais de cet ultimatum. Le 5 janvier, Youth for Climate Lyon ont déployé une chorégraphie et accroché une grande banderole sur la mairie verte de Lyon avec un message en flamme « Bye bye Bayer, ciao Monsanto ». Et une annonce claire, Bayer Monsanto doit payer pour ses crimes, pas pavoisés en terre supposément écologiste. Ce mercredi 9 février, c'est la Confédération paysanne de la Drôme et les soulèvements de la Terre 69 qui ont occupé le siège de la DDT, la Direction départementale du travail à Valence, contre la destruction de la paysannerie et du vivant pour le développement, de l'agritech, nouveau modèle technologique vendu par Monsanto et prôné par Macron dans son plan de relance 2030. 80 personnes, dont un grand nombre de paysans, ont déployé une banderole numérique, robotique, génétique, égale fausse solution pour les paysans et paysannes. Elles sont restées en assemblée dans les bureaux tout au long de la journée. Elles seront reçues par la préfète, donc c'était la semaine dernière. Les soulèvements de la Terre ont, à l'occasion de cette action, développé leurs arguments dans un texte manifeste. L'agritech, une révolution contre la paysannerie. Face à l'aggravation de la catastrophe et de l'asservissement à Bayer Monsanto et consorts par ces nouvelles technologies, ils y affirment que la seule et véritable innovation serait de permettre l'installation d'un million de paysans sur des territoires vivants, au cœur des systèmes alimentaires qui bénéficieraient à tous. Nous avons besoin de bras et d'imagination collective, pas de drones et d'algorithmes. De nouvelles actions sont prévues jusqu'au 5 mars, date à laquelle nous nous retrouverons massivement pour encercler le siège national de Bayer Monsanto. Une carte de tous les bureaux, centres de recherche ou de production de Bayer Monsanto en France a été publiée sur divers sites et peut être consultée utilement par tout un chacun pour agir d'ici le 5 mars. Et si vous voulez retrouver les infos et la campagne d'action contre Bayer Monsanto, eh bien vous allez sur le site lessoulèvementsdelaterre.org. Il y a aussi un Facebook, Instagram et Twitter. Et le prochain rendez-vous, c'est bientôt, c'est à l'Amicale du Futur. On en reparlera à l'agenda, mais c'est donc le 19 février à 16h avec Hélène Torgman, qui a écrit un livre « La croissance verte contre la nature » et Guy Katzler, qui est membre de la Confédération paysanne. Et donc c'est contre notamment le projet Macron France 2030 qui prône le numérique, la robotique et la génétique, et que ils et elles considèrent que c'est une fuite en avant technologique.
Et on enchaîne tout de suite pour se demander ce qui se passe dans nos soirées.
Oui, alors est-ce qu'il y en a plus, ou est-ce qu'on en parle plus grâce à la prise d'ampleur de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles de ces dernières années ? En tout cas, depuis l'automne 2021, de nombreuses agressions sexuelles par soumission chimique, c'est-à-dire avec utilisation de GHB, ont été reportées. À Lyon, pas plus tard qu'il y a un mois, le samedi 15 janvier, lors d'une soirée au Grand Zéro à Vaux-en-Velin, au moins 4 personnes se sont retrouvées droguées à leur insu au GHB, dont 2 qui ont par la suite subi une agression sexuelle. Le Grand Zéro a communiqué à sa liste mail de diffusion publique à ce sujet, communiqué dont je cite un petit passage. Ces témoignages sont très alarmants et reflètent la triste banalité de ces violences. Ils rappellent que l'insouciance en soirée est un confort très inégalement réparti. S'il y a d'un côté les gens qui peuvent faire la fête n'importe comment sans prendre la peine de calculer ce qui se passe autour, de l'autre, il y a tellement plus souvent celles qui doivent checker leur verre, leurs potes, protéger leur espace, avoir une stratégie de sortie pour chaque situation de merde et s'en vouloir quand elles baissent un peu trop la garde. On ne vient pas toutes et tous avec la même charge mentale en soirée et il y a clairement besoin de revoir le partage des tâches. Donnons-nous de l'attention, soyons alertes. Donc ce n'est qu'un petit passage du communiqué, mais le collectif de Grand Zéro a donc décidé de diffuser de l'information sur le GHB et les agressions sexuelles dans les soirées, d'augmenter le nombre de personnes investies dans l'organisation et la tenue des ouvertures publiques du lieu, d'avoir des personnes ressources facilement identifiables pendant les soirées et de proposer aux bars des couvercles pour protéger les verres. Et donc ça, c'est les mesures qui ont été décidées dans l'urgence, mais d'autres choses à plus long terme sont en réflexion. Et Grand Zéro va bientôt inviter à discuter publiquement de ces questions et à réfléchir ensemble aux autres outils pour mieux lutter contre les agressions et les diverses oppressions en soirée et réfléchir sur la réduction des risques en général. Il y a aussi une adresse mail spéciale qui a été créée pour leur faire part des situations problématiques qui auraient été vécues au Grand Zéro ou dont on aurait été témoin là-bas. C'est contact.gz@riseup.net. Et ce qui se passe à Lyon, en fait, ça fait écho à un mouvement plus large en France, Balance ton bar. À l'automne 2021, il y a de nombreux témoignages sur des agressions sexuelles par soumission chimique, donc avec utilisation de GHB, qui ont été reportés sur les réseaux sociaux, avec aussi une dénonciation de l'absence totale de gestion de ce problème par les propriétaires ou les gérants de bars et le personnel des bars. Et en décembre 2021, un collectif qui réunissait une centaine d'associations et une soixantaine de personnalités a publié une tribune dans Le Monde à propos de ces agressions au GHB en proposant une série de mesures à mettre en œuvre d'urgence pour lutter contre. D'ailleurs, dans ce communiqué, le collectif explique que par rapport à la question que je posais en introduction, apparemment, si le GHB serait de plus en plus utilisé comme drogue récréative depuis le milieu des années 2000 et depuis 2017, sa consommation est en nette augmentation dans différents milieux de la nuit et les douanes en saisissent de plus en plus. Le nombre d'intoxications au GHB-GVL croît depuis le milieu des années 2000 parce qu'il y a aussi effectivement une utilisation volontaire et récréative du GHB à plus petite dose qui a lieu. Mais ça peut donc être, c'est aussi utilisé pour agresser des personnes par soumission chimique. En tout cas, parmi les mesures préconisées par ce collectif se trouvait notamment le fait de, comme pour les mesures d'hygiène ou de sécurité, conditionner l'attribution d'un permis d'exploitation aux bars et aux établissements de nuit à la mise en place d'un dispositif comprenant trois axes, la prévention auprès du public, un affichage qui ne déresponsabilise pas les auteurs d'agression et qui ne culpabilise pas les victimes. L'affichage aussi un protocole d'alerte renseigné pour les établissements de nuit. La formation des équipes, donc la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles et à la prise en charge de victimes d'intoxication au GHB ou à une autre drogue. Et la sécurisation des lieux avec notamment une surveillance renforcée et des safe place. Il y avait aussi comme mesure préconisée réaliser une campagne de sensibilisation à l'échelle nationale pour alerter sur les violences commises sous soumission chimique dans tous les cadres, qu'ils soient familiaux, professionnels, festifs. Sensibiliser les services d'urgence comme les pompiers, les hôpitaux, le SAMU. Équiper les hôpitaux des moyens et des formations nécessaires à la réalisation de tests de détection de ces substances chimiques. Et proposer systématiquement un bilan médical aux victimes qui se sont retrouvées isolées pendant les phases d'amnésie pour détecter une éventuelle agression sexuelle et proposer les soins appropriés. On peut noter aussi que la ville de Paris, dans l'actualité très récente, a lancé une campagne à l'occasion de la réouverture des discothèques, puisque c'est cette semaine que réouvrent les discothèques. Mercredi 16 février, les professionnels de la nuit parisienne étaient appelés à se former aux problématiques de consentement qui ont émergé à l'automne. Et des slogans contre les violences sexistes et sexuelles vont être projetés sur les écrans d'une cinquantaine d'établissements de nuit parisiens pendant un mois. Il y a aussi une association qui va former des employés de discothèques, de bars et de salles de concert à mieux réagir face aux situations de violences sexuelles en insistant justement sur la prise en charge des victimes présumées de GHB. En conclusion, que ce soit à l'échelle d'une ville, de l'État ou de nos lieux auto-organisés, c'est vraiment urgent de prendre en charge collectivement ces violences et spécifiquement ce sujet du GHB.
Et on enchaîne avec une pause musicale. C'est Sampa the Great, c'est une rappeuse zambienne engagée et ça déchire, voilà. Et ce titre, c'est Final Form.
In my melanin, great state I'm in all states I'm in, I might find a form in my my melanin. Great state I'm in, in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. What they started and we made it. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin.
Vous êtes toujours sur Radio Canu et c'est toujours le Canu Info du lundi. Et vous venez d'écouter Sampa the Great avec son morceau Final Form. Donc c'est une rappeuse zambienne engagée. Je vous conseille d'aller écouter d'autres titres d'elle parce que ça déchire. Et on va donc enchaîner avec un agenda renforcé, on va dire, pour terminer cette courte émission.
Et donc, à toi l'honneur.
Et à moi l'honneur, super. Donc ça, c'est des camarades des collectifs Matsuda et Fraka qui nous ont demandé de faire un peu leur pub, et donc on le fait. Matsuda, c'est un collectif pour l'abolition de la police, et Fraka, c'est un collectif anticarcéral en lien avec les éditions Burnout, Burnout en fait, c'est écrit out, A-O-U-T comme le mois, et qui lance donc la publication « Nous faire justice ». Donc ça s'appelle Nous faire justice avec donc les collectifs Matsuda et Fraka. Alors voilà ce qu'ils disent, voici le postulat de départ. Les institutions pénales ne répondent pas à la hauteur de nos besoins en termes de sécurité, écoute, réparation et transformation des personnes en prise à des situations problèmes. En plus de ne pas y répondre, elle participe très directement au maintien du système capitaliste actuel qui produit toute une série d'exploitations, de violences et de dominations. Si nous ne pouvons ou ne voulons pas nous remettre à cette justice structurellement raciste, sexiste et classiste, comment construire des réponses collectives aux différents torts ou conflits qui nous traversent? C'est cette question que nous souhaitons explorer ensemble. Alors, la première date, c'est ce mercredi 16 février de 18h à 23h. C'est une lecture libre sur le mode de la scène ouverte. Alors, ce qu'ils disent, apportez vos textes, écrits pour l'occasion ou pas, ou des textes d'autres qui vous tiennent à cœur. Les textes lus auraient moins pour objectif la critique des institutions pénales actuelles ou passées que celle d'orienter notre regard vers comment vivre sans. Cela en nous faisant le récit d'expériences réelles ou fictives vers ce qui pourrait être des réponses extra-pénales d'hier, d'aujourd'hui ou de demain, ou bien des apports théoriques et méthodologiques à cette fin. Donc ça, c'est mercredi de 18h à 23h à l'Amicale du Futur, rue Sébastien Griff. Et il y a aussi le mercredi de la semaine suivante, le 23 février, de 15h à 23h. On vous le redira la semaine prochaine, de 15h à 23h. Donc deux ateliers seront proposés. Vivre sans la police, partir des expériences de chacun pour réfléchir à notre rapport aux institutions policières et construction d'une cartographie locale des ressources pour faire sans les institutions pénales et une collecte de récits individuels ou collectifs de réponses extra-pénales à diverses situations afin de partager les limites, échecs et réussites. Et à partir de 18h, il y aura la présentation des livres Abolir la police et de Nous faire justice, suivi d'une discussion avec le collectif Fraka, collectif cure et féministe d'aide à la gestion des conflits autour des pratiques de justice transformatrice. À boire et à manger sur place. Et vous pouvez aller sur le site www.abolirlapolice.org ou éditionburnout.fr.
Et puis jeudi, c'est journée de grève des catégories professionnelles du sanitaire, du médico-social et du social. Il est prévu un débrayage toute la matinée et ensuite de 14h à 17h, un rassemblement devant l'Alged. C'est au 14 Montée des Forts à Caluire. Voilà, donc... Apparemment, le rassemblement devant l'Alged, c'est parce que le directeur de cet établissement est le responsable régional de Nexem, qui est l'organisation patronale des conventions collectives de CHRS et Croix-Rouge. Et puis le soir, à partir de 18h, c'est, à partir de 17h30, c'est à la Bourse du Travail, l'AG. Je vais profiter du temps qu'on a pour vous énoncer quelques-unes de leurs revendications, qui sont essentiellement de mieux traiter les travailleurs du sanitaire, du médico-social et du social, et puis de leur donner les moyens de prendre soin des gens dont ils doivent prendre soin. Donc ils demandent l'ouverture de places dans le social sanitaire et le médico-social et l'ouverture de lits dans la santé, l'arrêt des restructurations, des suppressions de places et des fermetures de lits, des budgets à la hauteur des besoins et arrêt des financements de Séraphin PH et de la T2A, la création de 400 000 embauches sur des statuts pérennes et contrats CDI, un plat de formation qualifiante et un plan pardon de formation qualifiante et ambitieux qui apparemment est loin des promesses du Ségur, si on se souvient bien, pour l'amélioration des conditions de travail d'accueil et la qualité de la prise en charge des personnes recueillies. Il demande aussi une revalorisation salariale d'au moins 300 euros et la transposition des 183 euros pour toutes et tous, dans le privé comme dans le public. Et une convention collective unique de haut niveau qui va dans le sens d'une amélioration nette des salaires et des avantages conquis. Et ils finissent leurs revendications en demandant de mettre fin à la casse du service public et de la fonction publique. Et ils sont pour un grand service public d'action sociale et de santé. Et puis ce jour-là, je dis, si vous ne voulez pas aller à l'AG des professions du sanitaire, médico-social et du social, il y a une réunion publique pour impulser une dynamique en écologie sociale à la Croix-Rousse. Et là, je vous laisserai regarder sur Rebellion, c'est à 18h30.
Ok. T'en as d'autres d'ici à samedi?
On peut donner le rendez-vous du coup de vendredi à 18h, puisqu'il y a la projection de Ni les femmes, ni la terre sur les désastres écologiques de Bayer-Monsanto. Donc je pense que c'est dans le cadre
des soulèvements de la terre, probablement. Oui.
Donc c'est le vendredi 18 février à 18h et c'est à l'illégalité à Villeurbanne, c'est proche du métro QC. Et pareil, il y a plus d'informations sur Rebellion.
Voilà, et pour clôturer cette semaine de lutte, donc il y a un appel du collectif unitaire anti-autoritaire qui regroupe des assemblées de gilets jaunes, le CNNR Lyon, Extinction Rébellion et autres joyeuseries. Qui appelle à manifester les deux prochains samedis à 14h, place Guichard. Alors voilà ce qu'ils disent, nous sommes nombreux et nombreuses à nous être impliqués dans la lutte contre la loi sécurité globale fin 2020 et à avoir rejoint le printemps des libertés en mars 2021 pour dénoncer les atteintes aux droits fondamentaux et l'avalanche de lois sécuritaires comme les lois renseignement. C'est pour les mêmes raisons que nous dénonçons l'instauration et la prolongation du pass sanitaire depuis juillet 2021 et aujourd'hui le pass vaccinal. Ils appellent donc à lutter contre le renforcement de la technopolice, l'escalade sécuritaire et les nombreuses atteintes aux libertés, plus de services publics et de budget pour les hôpitaux, la fin de toutes les mesures antisociales, la fin du mépris, de l'exclusion et de la surveillance généralisée de la population. Ils disent aussi qu'il nous faut aujourd'hui apporter une réponse populaire à la fois à la dérive autoritaire du gouvernement et à la récupération de la colère par l'extrême droite. Donc ce sont des manifestations contre les lois liberticides, contre les mesures autoritaires récentes, pour la défense des services publics et la protection sociale, pour faire barrage à l'idéologie de l'extrême droite et pour échanger sur la nécessité d'un autre choix de société solidaire et protecteur pour le vivant et la planète. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. On vous invite à y aller. Donc c'est le samedi 19 et 26 février 2022. C'est départ 14h, place Guichard, en tout cas pour ce qui concerne le 19 février. Et puis vous pouvez retrouver leur texte d'appel sur Internet, si vous le souhaitez bien sûr.
Et à l'agenda, on a oublié une autre projection vendredi 18 février à 19h30, cette fois à la Plume Noire. C'est le documentaire Aube Dorée, l'affaire de tous, avec présence de la réalisatrice Angélique Kounis. Ce sera donc l'occasion d'échanger sur la situation en Grèce, mais aussi en France, alors que la surenchère raciste et sécuritaire plane sur l'élection présidentielle.
Voilà, et on termine ce Canu Info de 40 minutes, mais c'est déjà ça. Et on vous dit à la semaine prochaine. Donc il y aura une interview très probablement de camarades qui étaient à Calais au moment de la répression dont on vous a parlé tout à l'heure. Et on parlera aussi des centres de rétention à l'échelle nationale et locale avec le collectif Anticra. Voilà, bonne soirée et à la semaine prochaine.
Fondement.